Bonjour. On l'a vu avec le premier épisode de cette série sur l'environnement, dans les quelques 800 reportages diffusés depuis 20 ans dans le cadre d'Interception, l'environnement était déjà, il y a deux décennies, une préoccupation scrutée sous tous ses aspects sur notre antenne. Et on se rend compte qu'alors, les constats étaient alarmistes. Réchauffement climatique, atteinte à la biodiversité étaient donc autant de phénomènes connus. Ce qui a mis plus de temps à émerger, ce sont les problèmes de santé publique posés par l'activité économique humaine. Et si ces problèmes ont tardé à émerger, c'est peut-être aussi parce que certains intérêts économiques s'opposaient à une prise de conscience générale. On arrive ici sur une des fonctions du journalisme, portée, comme le disait Albert Londres, la plume dans la plaie. C'est à une véritable enquête que s'est livrée Inès Lérault, quelques jours avant le Salon de l'agriculture de 2015. Elle nous emmène en Bretagne pour mettre en lumière la difficulté qu'ont eu des salariés de l'agro-industrie pour faire reconnaître le caractère professionnel des affections dont ils souffraient. Ils avaient travaillé pour une coopérative agricole dont les silos de stockage étaient saturés de pesticides. Et comme la santé économique de toute une région dépend de l'agriculture, c'est une sorte d'omerta qu'il a fallu briser. Bretagne, une histoire de grains pourris, c'est un reportage d'Inès Lérault diffusé le 22 février 2015.
Bonjour. Le Salon de l'agriculture s'est ouvert hier, porte de Versailles, à Paris. Comme chaque année, c'est la vitrine du monde rural. Une vitrine dans laquelle se confrontent, de plus en plus ouvertement, deux types, deux modèles d'agriculture. Il y a le modèle que l'on pourrait qualifier de paysan, à une échelle humaine, avec un recours aux techniques traditionnelles, notamment par une utilisation à minima des produits chimiques. Et puis, il y a l'autre modèle, celui des grandes productions, des élevages intensifs, un modèle qui se rapproche de plus en plus des modes d'organisation industrielle. Un modèle qui néanmoins avance souvent masqué, caché derrière un discours qui vante le naturel, l'authenticité des produits, la transparence des modes de fabrication. Dans ce discours, on entend notamment les messages qui vantent le système coopératif français. Alors que beaucoup de ces coopératives ne sont plus aujourd'hui que des grands groupes de dimension souvent internationale, qui n'ont plus rien de coopératif, en tout cas dans leur fonctionnement. Nous partons ce matin pour la Bretagne, une terre justement où le modèle hyper-productif s'est imposé. Dans la région de Guingamp, quatre salariés mènent depuis des années une bataille sans merci contre leur ancien employeur Nutrea, une filiale du groupe Triskalia, l'un des géants européens spécialisés dans la fabrication de nourriture pour le bétail et la volaille. Pour avoir travaillé dans des silos de stockage saturés de pesticides, les quatre hommes souffrent aujourd'hui du même mal que celui que l'on avait découvert dans les années 70, après les épandages massifs de défoliants sur les forêts du Vietnam. En septembre dernier, deux des salariés de Nutrea Triskalia ont obtenu une première victoire. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc a condamné leur ancien employeur pour faute inexcusable. Mais cette victoire n'est qu'une étape, car outre la maladie, les quatre hommes ont été licenciés par leur employeur. Cette affaire est assez exemplaire, car elle met en lumière d'une part la difficulté pour des salariés de l'agroalimentaire de faire reconnaître les méfaits des pesticides. Et d'autre part, elle permet de comprendre comment, dans une région prisonnière d'un type de production agricole, il peut régner un silence tout à fait comparable à cette omerta qu'imposent les sociétés mafieuses dans le sud de l'Europe. Bretagne, une histoire de grains pourris. C'est une enquête d'Inès Lérault.
Interception, le magazine de la rédaction.
Un soir, j'avais pris le travail pour laver. Je le pose tout près d'un bassin chez moi à poissons. Et le lendemain, dans la nuit, j'avais oublié mon bleu tout près du bassin à poissons. Et sans que le bleu n'ait eu contact avec l'eau, il était à peu près à 50 cm de l'eau, tous mes poissons étaient morts dans le bassin. J'avais une trentaine de poissons. Je les ai tous perdus. Et du coup, j'ai dit, oh là, ça ne peut plus continuer ce bordel dans cette entreprise. Personne ne nous écoute. Et nous, on est en train de laisser notre peau dans cette entreprise. Tout était contaminé, puisque même le gamin chez moi, quand il regardait la télé sur mes genoux, il avait commencé à réagir, il y avait des plaques rougeâtres et tout ça sur le visage. C'est là que j'ai dit, il faut que ça s'arrête, il y a un gros problème dans cette coopérative.
Les symptômes ont commencé en 2008, c'est surtout en 2009. 2009, là, ça a été catastrophique. Là, je commence à avoir des maux de tête, des douleurs oculaires, des problèmes pour fixer, des brûlures oculaires. Et j'ai conduit comme ça pendant quelques mois. Je prenais jusqu'à 5 neurophènes par jour, des neurophènes 400. J'arrivais à gérer la douleur au quotidien en prenant ces cachetons-là jusqu'à un certain moment. Ben, c'était fin 2009, courant octobre, novembre 2009. J'ai commencé à avoir des flashs, c'est-à-dire une coupure, un blanc, une reprise, et je ne savais pas ce qui s'était passé.
Vous étiez chauffeur pour Nutriatrice Calia.
Oui, je livrais l'aliment du bétail en ferme, je faisais surtout le Finistère Nord.
Quel aliment ?
Je livrais en général, c'était surtout de l'aliment cochon et de la pondeuse, l'aliment pondeuse. C'est surtout ça.
Poule pondeuse et porc.
Ouais, voilà. Et quand on chargeait les camions, ben il y avait tellement de poussière que ça rentrait dans les climatiseurs des cabines. Ben, je respirais ça à longueur de journée.
Nous sommes en Bretagne centrale, la Bretagne productiviste et remembrée. Plus de la moitié des porcs français sont produits ici, soit 14 millions par an. Autour de nous, ce ne sont que routes, marchandises transportées par camion, exploitations sans arbres, silos à grains, hangars. Laurent Guillou et Claude Le Guyadère sont salariés de la coopérative quand l'accident survient, en 2009.
Ils crient un peu, ils attendent d'en faire des soins. Le porcelet, quand il est tenu, il n'aime pas trop.
À l'autre bout de la Bretagne, un éleveur en subit à son tour les conséquences.
Un matin, je me suis rendu à l'élevage. Je suis allé directement dans ce qu'on appelle le post sevrage pour alimenter les porcelets. Et à cette époque-là, je travaillais avec un aliment complet qui venait de chez Nutréa, quoi. Et j'ai ouvert un sac d'aliments porcelets. Et ça, c'est des sacs qui sont particulièrement étanches pour meilleure conservation de tout ce qu'il y a dedans. Je me suis penché dessus, j'ai tiré sur la languette et instantanément, j'ai senti une brûlure au visage et puis à la poitrine, parce que bon, c'était en été, donc j'étais quand même en bleu ouvert, t-shirt. Et ça, c'est comme si j'avais une projection d'acide. C'était très très brûlant. Tout mon cou était rouge vif, boursouflé.
Les brûlures sont restées longtemps sur vous ?
Ah, ça s'est résorbé au bout de quelques jours, mais donc c'était le cou, toute la base de la poitrine et les avant-bras. Ça partait en dégressif, quoi.
Des boursouflures rouges ?
Ah oui, bah, c'était atroce. Atroce déjà, la sensation, parce que c'était une brûlure comme un œdème, quoi. Comme vous faites un œdème sur quelque chose, quoi. J'ai appelé mon médecin immédiatement. Quand il m'a vu, il m'a dit « Bon, ouais, je vous fais une piqûre de cortisone tout de suite ». Il m'a dit « Oh, vous êtes peut-être allergique à ci, peut-être allergique à ça ». Moi, j'ai jamais cru à son histoire d'allergie. Parce que si j'avais été allergique à quoi que ce soit, depuis juillet 2009, je crois que c'est la date de l'accident, j'aurais certainement refait le même problème. Or, ça n'est jamais arrivé de nouveau. Mais comme j'ai jamais fait faire d'analyse du sac d'aliments, parce que un quart d'heure après, il était bouffé de toute façon... Bon, peut-être que sur ce lot-là, il y avait quelque chose de mal dosé, j'en sais rien du tout. Et c'est après, quand j'ai entendu parler de l'histoire des deux gars de Nutréa, là, qu'on a envoyé crapahuter dans les silos à céréales bourrés d'insecticides, parce que les silos étaient complètement infestés d'insectes. Et donc, quand j'ai vu leur histoire dans le journal, que je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est la même boîte, c'est au même moment.
On est avec Laurent, Claude et Stéphane derrière l'usine Nutriatrice Calia. On est dans un petit chemin qui la longe par l'arrière et donc on voit ces énormes silos qui font sans doute une centaine de mètres de largeur et de hauteur, et ces grands bâtiments verticaux, rouges et blancs, ces hangars, qui sont posés là au milieu des champs, des parcelles cultivées. Il y a quelques maisons qui donnent sur l'usine aussi. Tout commence en 2009 quand la direction d'Eolis, devenue Triskalia, décide pour des raisons d'économie d'électricité de ne plus ventiler la nuit quelques 20 000 tonnes de céréales. Quelques mois plus tard, Laurent Guillou, simple salarié, ouvre un silo. Il découvre l'état des stocks.
Dans une poignée de grains que vous preniez, il y avait plus d'insectes que de céréales. C'était une aberration totale.
Il y avait quoi comme insectes ?
Il y avait du charançon, du sylvain, des vers de farine, des moucherons. En plus, la céréale qui était dans ce magasin, il y avait plein de vers de gris dessus. C'était moisi, c'était pourri. Il y avait du jus qui coulait de partout. Ils ont essayé d'incorporer le maximum de ce qu'ils pouvaient de ces céréales dans les aliments. Mais
ils ont quand même voulu envoyer ces céréales pour l'alimentation des élevages de la région.
Ah oui, par tous les moyens, il fallait qu'il y ait le moins de pertes possible. Chez eux, la perte, ils ne voulaient pas l'entendre.
Les supérieurs de Laurent décident de traiter les céréales par des pesticides. Pour cela, ils emploieront des produits stockés sur place depuis des années. Après l'opération, c'est en simple bleu de travail que les salariés reprennent leur ouvrage.
Le problème, c'est que tous ces céréales étaient traitées et avec les insecticides. Et c'est que nous, donc, les poussières, déjà, on les inhalait. Pour le soir, ben, on n'avait plus que des saignements, des vomissements, des diarrhées. On avait beau prendre des douches, je me suis vu prendre jusqu'à 5-6 douches par nuit. Et moi, ça me brûlait de partout. Le médecin m'a dit, c'est un empoisonnement aux pesticides que vous faites. Et de là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti voir, parce que mon médecin m'avait demandé qu'est-ce que c'était comme produit. Je ne savais pas trop. Je suis parti voir ce qu'il y avait sur le bidon. Et là, j'ai vu que c'était du nuvent total. Et j'ai fait des recherches sur Internet, sur notre lieu de travail. Oh, c'est là que j'ai vu que c'était un produit interdit. Là, ça fait froid dans l'eau quand on sait que c'est un produit interdit, où vous avez une tête de mort qui est dessinée sur le bidon. Il était théoriquement interdit à la vente depuis 2001. Ils ont retrouvé encore sur le site jusqu'en 2009.
Mais alors, vous avez réussi à obtenir des témoignages de collègues en activité?
Oui, on a obtenu une dizaine de témoignages de collègues qui étaient en activité. J'avais des témoignages comme quoi j'avais des gens qui m'ont vu saigner sur mon lieu de travail, donc je ne mentais pas. Et autrement, tous les aberrations qu'il y avait, les oiseaux, les pigeons morts qu'on retrouvait sur les fosses. Les pigeonneaux qui faisaient que piailler pour essayer d'avoir à manger, alors que leurs parents étaient crevés avec les grains ou avec ce qu'ils avaient ingurgité aux abords des fosses. Parce que les pigeons, les rats, les souris, c'est ce qu'il y a de plus envahissant auprès des coopératives, puisqu'il y a toujours des grains qui arrivent à tomber des camions ou des wagons. Quoi.
Vous êtes le président de la société Jazz.
Président de la société Jazz, oui. De Pouilly.
De Pouilly. Voilà. Donc la petite ville où se situe l'entreprise Nutria Triskalia.
Voilà. Et ça fait plus de 20 ans que je m'occupe de la chasse. Au moins une fois par an, nous faisons des battues administratives pour éliminer, pour régulariser les pigeons. Les pigeons domestiques. Il y a un envahissement de pigeons domestiques donc sur ce site-là.
Nutria Triskalia.
Parce que bon, y a la nourriture, il y a des graines, il y a tout ce qui s'ensuit. Donc, ils viennent se nourrir là. Et donc, nous faisons des battues administratives.
Ça veut dire qu'ils vous emploient en tant que chasseur pour aller tirer sur les pigeons.
Voilà, pour donc régulariser l'espèce.
Ils vous en tuez beaucoup à chaque fois?
Il y a des bandes qui vont de 150 à 200.
Et qu'est-ce qui s'est passé alors?
Comment ce que je marque bien dans ma feuille, quand même, que j'ai fait l'attestation pour ce gars-là.
Vous avez fait un témoignage pour le procès de Laurent Guillou.
Pour le procès de Laurent Guillou. Je peux vous lire si vous voulez.
Oui.
J'atteste que certains chasseurs de la société de chasse de Pluisy ont été invités à participer à une battue administrative pour la destruction du surnom des pigeons domestiques sur le site du CA, sous la responsabilité d'un lieutenant de louveterie. J'ai participé à une dizaine de battues. Les voliers étaient de 150 à 200. Nous détruisons entre 50 et 80, voire 80. à la dernière battue, il n'y a eu que 4 pigeons de tués. Tout ceci dans le cadre pour faire croire que les pigeons n'étaient plus présents grâce aux battues.
D'accord. Là, on a fait appel aux chasseurs encore. Et
oui.
Il y a eu que 4 pigeons.
Il n'y a eu que 4 pigeons, oui. C'était une vache cachée pour essayer d'atténuer, de dire qu'il n'y avait plus de pigeons puisque les chasseurs ont été.
En clair, la direction aurait maintenu la battue de pigeons alors que les oiseaux étaient déjà décimés par les produits chimiques.
Moi, de ce que je sais de cette affaire-là, je trouve quand même que c'est malheureux que le produit qu'ils ont employé était interdit. Il y a quand même quelqu'un qui a donné l'ordre d'employer ce produit-là. Je pense que le procès là, des gars de Triskaïa ou de Lucéa, là, quand on voit jusqu'à où que ça a été, heureusement qu'ils avaient du monde derrière eux. Ça aurait été un truc englouti, ça, vite fait.
Par qui ?
La justice en France, pour moi, il y a 2 vitesses. Il y a celle du riche et celle du pauvre.
Laurent, Stéphane, Claude et Pascal sont des fils de paysans. Autant dire qu'ils sont durs à la tâche. Ils continueront de travailler dans cette ambiance toxique sans que jamais la direction n'entende leur inquiétude. Très vite, les 4 hommes sont frappés d'un mal terrible. L'hypersensibilité aux produits chimiques multiples, ou MCS. Leur organisme ne supporte plus le moindre contact avec un produit chimique. Ils sont licenciés pour inaptitude à leur poste. Mais ce ne sont pas les seules victimes.
On s'est rendu compte des gosses qu'avaient occasionné ces pesticides par rapport aux aliments livrés chez les agriculteurs. Problème de cannibalisme, les problèmes d'avortement chez les truies. Et j'en passe, les cochons crevés qu'il y avait dans les élevages, les collègues qui reprenaient l'aliment disaient il y a moins de 10 de porcs de charcutiers qui sont crevés à l'entrée de la porcherie, là-bas, qu'il y a les caressages qui sont en train de les prendre.
Tout ça parce qu'ils avaient consommé
Tout ça, c'est parce qu'ils avaient consommé l'aliment traité avec les pesticides.
Pascal, vous aviez observé vous-même de vos yeux les retours d'aliments, vous qui étiez au transport ?
Oui, tout à fait, moi j'étais au transport et... De toute façon, j'avais les adhérents au téléphone pour m'expliquer que voilà, il y avait des problèmes d'aliments chez eux et qu'il fallait venir les chercher. Mais je pense qu'à cette époque-là, ils n'étaient pas au courant de ce qu'il y avait dans les aliments. Eux, ils appelaient parce qu'il y avait un problème. Il y avait des mortalités, il y avait plein de choses qui se passaient. Donc moi, je disais aux chauffeurs d'aller chercher les aliments. Et ces aliments-là revenaient... retourner en fabrication, était relivré.
C'était redilué à petite dose, à 4, 5, 6%. Rien n'était perdu pour eux, pour la coopérative.
Ils étaient redilués dans l'alimentation.
Bien sûr. Ça repartait chez le client. Le client ne savait pas ce que ces cochons mangeaient. Mais c'était aberrant. Moi-même, je me le disais dans ma tête. Et ils vont remanger la même chose, quoi. Et puis voilà, les résultats étaient là. La mortalité, l'avortement, cannibalisme.
Tous les animaux qui ont survécu se retrouvent sur la chaîne d'abattage et ont été consommés par les consommateurs. C'est honteux, il n'y a pas eu d'analyse de fait, aucun contrôle n'a été effectué. Les œufs, c'est pareil. Les œufs, il y avait une baisse de ponte dans les élevages, c'était une catastrophe. Il y avait de la consommation d'eau qui avait doublé. Tous ces œufs-là, ils sont rentrés dans la chaîne alimentaire. Personne n'a rien dit, tout le monde a fermé les yeux là-dessus.
Un poulet certifié, une volaille française à 3,47€ le kilo.
Plus de pouvoir d'achat avec les promotions du rayon volaille.
Le poulet d'origine France, le poulet certifié blanc ou jaune est à 3,47€ le kilo pour une volaille de qualité.
Triskaïa ne répond jamais aux questions dérangeantes. Nous parvenons à rencontrer la direction du groupe au motif d'une enquête sur l'économie bretonne. Dominique Sicone, le directeur général, nous reçoit sous le regard scrupuleux de sa responsable de la communication. Sur les murs, des posters de légumes paysans bretons, la marque du groupe.
Dominique Sicone, je suis directeur général du groupe Triskaïa, qui est un groupe coopératif et agroalimentaire qui fait un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, base 2013. 4500 salariés dans le cadre d'une polyvalence dans les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution. En Bretagne, nous sommes la première coopérative régionale.
Est-ce que ça vous a fait prendre conscience de quelque chose, le fait que des salariés tombent malades suite à une contamination par des pesticides interdits ou en surdosage? Et si oui, de quoi?
Il y a pu y avoir à un moment donné une erreur humaine qui a engendré des dommages. Il faut être bien sûr de la nature de ces dommages. Sur le fond, ça n'a pas fait prendre conscience plus que la nécessité d'avoir des règles de sécurité, d'hygiène et de sécurité qui soient fortes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur le fond. Ça n'a pas fait une révolution en interne en disant « oh là là, oh là là, oh là là ». On fait ce qu'il y a à faire. Voilà. Après, il y a des affaires qui sont loin d'être terminées dans des contextes dont je ne connais pas le détail, parce qu'il faut avoir à l'esprit que c'était quand même un peu avant la période de la fusion, hein, que ça s'est produit. Voilà.
La deuxième question, c'était est-ce que vous savez si ces pesticides interdits ont pu contaminer la chaîne alimentaire jusque dans les supermarchés, puisqu'ils étaient destinés au bétail?
Je pense que c'est une question piège et je pense qu'on va en rester là. C'était pas du tout prévu dans l'entretien. Et c'est un sujet qui concerne une filiale.
Mais la filiale, vous êtes la maison mère, donc c'est vous qui la contrôlez.
Ne pas s'étendre sur ces sujets-là. Je crois qu'il faut considérer que, voilà, on n'a pas d'autres déclarations à faire sur ce dossier-là, en l'espèce. Hein, ça fait partie.
Vous préférez pas en parler?
Non, mais disons que c'est pas le lieu ni l'endroit pour le faire. Voilà, c'est tout. Hein, c'est toujours dit avec courtoisie. Voilà.
À vrai dire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déjà tranché. En septembre dernier, il condamne l'entreprise pour faute inexcusable. Le tribunal a retenu pas moins de 5 infractions au Code du travail. Reste une question essentielle. Les céréales traitées par des pesticides ultra nocifs et interdits ont-elles contaminé la chaîne alimentaire? Autrement dit, la viande des porcs ainsi nourrie est-elle parvenue dans nos assiettes? La direction de Triskalia garde le silence. Quant aux organismes chargés du contrôle de notre alimentation, ils sont à peine plus déserts.
Bienvenue au ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Nous vous prions de bien vouloir patienter.
Allô?
Allô, bonjour.
Oui.
Je travaille pour Radio France sur une pollution qui a eu lieu dans une coopérative agricole par des insecticides.
Donc du coup, je dois vous passer le directeur ou...
Bah oui, peut-être le directeur.
Mais là, il est en pause. Hein.
Jusqu'à quelle heure?
Jusqu'à 13h30, vous pouvez rappeler.
D'accord.
Ok.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Ministère de l'Agriculture, bonjour.
Bonjour madame, je vous appelle parce que je cherche un interlocuteur au ministère de l'Agriculture.
Oui, alors vous n'êtes pas du tout dans le bon service. Donc une pollution sur, vous m'avez dit pollution sur...
Dans une coopérative agricole, dans l'aliment pour le bétail.
Alors je vais vous donner le numéro de la DICOM. Le 01 49 55.
D'accord.
C'est le service de la communication.
D'accord, merci.
Voilà, au revoir.
Au revoir.
Je suis désolée, mais la personne que vous demandez possède une boîte vocale qui n'a pas encore été créée. Au revoir.
Pour résumer, nous avons commencé par l'ANSES, l'Agence sanitaire de l'alimentation. Celle-ci nous renvoie vers le ministère de l'Agriculture, qui, très soulagé, nous apprend que les contrôles dépendent finalement de la DGCCRF, la Direction générale des fraudes.
Bienvenue au ministère des Finances et des Comptes publics, ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique. Nous allons vous répondre dans un instant.
Service presse, bonjour.
Bonjour, Inès Leroy à l'appareil. Je lui ai envoyé un email. Je travaille pour Radio France. Et je...
Oui, sur les insecticides, oui.
Et je...
Oui, on a bien reçu.
D'accord.
Enfin, en fait, j'ai transmis votre mail, mais après, je vous garantis pas qu'on aura forcément une réponse tout du moins communicable. On communique uniquement sur la réglementation. Donc après, bon, chacun fait son interprétation, mais du coup, là, vu qu'on parle d'une coopérative en particulier, même si j'avais des informations, je ne suis pas sûre de pouvoir vous les donner.
Par exemple, en tant que consommateur citoyen, on ne peut pas savoir si la DGCCRF a fait des contrôles sur l'alimentation, sur la contamination de l'alimentation.
Ah si, bien sûr, en général, bien sûr que si. Mais sur cette filiale de la coopérative dont vous parlez précisément, si j'ai des éléments dessus, je pourrais sans doute pas vous les donner.
Mais si vous communiquez sur la réglementation et que la réglementation n'est pas appliquée, à quoi ça sert d'avoir la réglementation ?
C'est à vous de faire la déduction.
Bah.
Voilà. Donc je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau.
Merci beaucoup.
Voilà. Je vous en prie, au revoir.
Au revoir. En résumé, impossible de savoir si la DGCCRF a fait son travail. Deux mois après sa promesse téléphonique, sa directrice de la communication ne nous a toujours pas rappelé. Et toujours pas de réponse à cette question. Les pesticides interdits et surdosés ont-ils ou pas atterri dans nos assiettes ?
Tournez à gauche, puis tournez immédiatement à droite.
Puisque les instances officielles ne veulent pas répondre, c'est à un simple éleveur que nous allons poser la question. On arrive sur... dans une immense porcherie, il y a 4, 5, enfin je peux pas tous les compter, je peux pas tous les voir, mais il y a plusieurs grands bâtiments avec des silos à grains. Je vois au moins 9 silos pour les aliments pour le bétail, ça sent énormément le porc. Donc c'est sûr, c'est une porcherie, parce qu'on voit rien, hein, c'est des hangars en tôle. Des grands hangars, vert kaki, gris. Et sur les portes d'entrée, il y a écrit « Entrée interdite, élevage sous contrôle sanitaire, Nutria, une force pour l'élevage ». Et donc, j'ai entendu dire que c'était un élevage qui, justement, avait souffert des problèmes de toxicité des aliments Nutria. Ah, il y a sans doute un paysan, il a un bleu de travail, il est en train de réparer sa voiture. Un peu plus loin. Je vais aller le voir.
Ben, moi, je peux vous parler ou pas ?
Non. Par rapport à quoi, celui-là ?
Les employés de la société Nutri qui m'ont dit qu'ils avaient livré des aliments toxiques en 2009.
Ouais.
Et que moi, j'essaie de remonter le fil.
Non, parce qu'il y a un problème avec eux, donc je peux rien dire. Ça, non, non. Non, non. Non, non.
Mais c'est pas les concernants
non,
que
non,
je vous
non,
pose.
Non, non, non,
oui,
non.
Mais
non, non, j'ai une bonne cause pour dire non vis-à-vis de Nutria. Non, non, c'est pour avoir des reproches derrière moi parce qu'il y a un conflit entre nous. Donc,
Avec Nutria ? Si vous voulez, je laisse mon matériel loin. Dans
non, 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 partez parce que ça va m'énerver. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Donc.
D'accord, je comprends, mais juste.
Non, partez. Parce que
non, mais moi je veux juste.
Non, comprendre. Non, n'insistez pas, autrement j'appelle les flics. Hein. J'ai assez de problèmes comme ça. Dehors, point bas.
Je pense que...
Point bas.
Oui, mais on est là pour vous aider à
non,
aussi...
Non, 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 pas du tout. Dehors.
Moi, j'ai juste besoin de savoir si vous avez reçu des aliments toxiques ou pas.
J'en ai rien à foutre de ça. N'insistez pas, j'ai autre chose à foutre.
Oui, mais si vous avez
des... Mais ça, ça va.
Si vous...
Dehors. J'ai mes raisons.
J'enquête sur... sur Nutria.
Après les flics. Allez, hop.
J'ai le droit à l'entrée des artistes. D'habitude, on rentre par derrière.
Ah bon ? Je replie mon parapluie.
Entrez.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour. Le paysan, ça reçoit dans sa cuisine, un paysan. C'est le lieu... Voilà, c'est à la fois le bureau, le lieu où on reçoit, le lieu où on casse la croûte. Et voilà. Allez, asseyez-vous.
Et par la fenêtre, vous avez vu sur Nutria Triskalia ?
Oui, c'est un petit peu caché par le hangar, mais j'habite effectivement juste au pied de l'usine.
Thierry Thomas, vous pouvez nous raconter l'histoire de votre ferme ?
Dans ce village d'ici, dans ce petit village, il y avait à l'époque 4 fermes. Dans les années 50-60, il y avait 4 fermes. Je suis la seule aujourd'hui, on est tout seul. C'est que ça a fait le ménage dans le milieu agricole. Ça ne fait pas de bruit, il y a eu un véritable plan social. Dans les années 70, il y avait 150 000 exploitations sur la Bretagne, il en reste 35 000 aujourd'hui. Vous voyez, ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de manifestation, c'est juste que les gens ne sont pas remplacés.
En 40 ans, le tiers des exploitations a disparu.
Oui, quand on a démarré cette activité-là... On l'a démarré avec un besoin, une envie, et puis d'ailleurs une nécessité financière d'être intensif. On a 90 truies et on produit plus de 2000 porcs par an. Et ça, c'est devenu une petite boutique en Bretagne. Il faut en être conscient.
La moyenne, c'est quoi ?
180 à 200 truies. Le double. On est noyé dans un contexte ici qui n'est pas un contexte neutre. On n'est pas dans le sud-ouest de la France ou dans les Alpes de Haute-Provence. On est ici en Bretagne, terre intensive, de production intensive. Et que la culture, elle est là, elle est ancrée, elle est solide. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup aujourd'hui de résistance au changement, qui pourtant est devenu nécessaire.
Est-ce que vous vous souvenez du moment vraiment où vous avez été mis au courant de cette histoire d'empoisonnement chez Nutriatrice Calia ?
C'est d'abord Laurent qui m'en a parlé. Puisqu'un jour, il m'a emmené sur l'heure de midi voir un tas de triticales qui avaient germé, donc avec de la moisissure en dessous, avec des charançons en pagaille. C'était pas très ragoûtant, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Il était venu me montrer en me disant, tu vois, voilà, c'est ça qu'on nous a demandé de traiter. Voilà, ça fout le camp dans l'aliment que tes cochons vont manger, quoi. Alors, vous dire, est-ce que les animaux ont été malades suite à l'ingestion d'aliments qui n'auraient pas été conformes? Très franchement, je peux pas vous dire ça. Ça fait partie du métier d'éleveur d'accepter la mort des animaux. Je peux avoir des doutes, mais je ne peux pas vous dire ça.
Pourquoi vous avez des doutes?
Parce que je fais pas tellement confiance dans les fabricants d'aliments du bétail, et puis parce que ce qui s'est passé ici à côté chez Nutréa pose un véritable problème d'information des éleveurs. À aucun moment, les dirigeants qui ont été informés, ils savaient qu'ils ont, un, utilisé des produits interdits, deux, que parfois ils l'ont utilisé à des doses qui n'avaient rien à voir avec les doses autorisées, plusieurs dizaines de fois les doses autorisées, jamais, à aucun moment, les responsables de cette entreprise ne sont venus nous informer en nous disant « on a eu un problème, on a eu un souci ». Ça serait peut-être bien qu'on vérifie si la qualité de vos aliments est conforme. Jamais ils n'ont fait ça. Et ça, c'est insupportable. Parce que moi, je suis éleveur. J'ai pas du tout envie, à aucun moment, de porter la responsabilité d'avoir empoisonné qui que ce soit avec mes animaux.
Alors ça veut dire que vos cochons ont été nourris avec les granulés de Nutriatrice Calia pendant la période où il y a eu ces intoxications avec des pesticides interdits et en surdosage?
Oui.
Ils ont été nourris avec ces céréales, ils ont été envoyés sur les chaînes d'abattage,
oui.
Dans les supermarchés, dans les chaînes de consommation,
oui.
Sans aucun contrôle, sans aucun...
Je me suis inquiété auprès d'une femme qui était vétérinaire de Nutréa. Je lui ai demandé à un moment, mais est-ce qu'on sait si les aliments que l'on a distribués à nos animaux pouvaient possiblement contaminer la viande des animaux? Elle m'a répondu de façon assez évasive... Non, on a fait des vérifications, ça doit, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, je ne crois pas une seule seconde que dans une région comme la nôtre, on arrive à faire un jour parler les uns et les autres sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est extrêmement sensible. Je me souviens de producteurs, moi, qui, alors qu'ils travaillaient à l'époque pour une entreprise bretonne du Finistère à Garlesquin qui s'appelait Tilly, d'éleveurs qui se plaignaient, qui se plaignaient de leur situation. Ces gars-là parlaient avec une capuche sur la tête. Les gens se cachent ici. C'est un peu l'omerta. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans l'agroalimentaire, quand quelque chose dérape, c'est un peu l'omerta. C'est très curieux, vous savez, les problèmes de l'agroalimentaire dans le département des Côtes-d'Armor, même dans les tribunaux, ça sort jamais. Le poids de l'agroalimentaire est tellement énorme sur le volet économique et sur le volet de l'emploi que ces scandales, quand il y en a, eh ben, ils sont étouffés.
En enquêtant, nous apprenons que les coopératives agricoles diffusent régulièrement des consignes de discrétion à leurs adhérents. Elles concernent directement les journalistes. Il est conseillé aux agriculteurs de s'en méfier.
Nous sommes informés que le photographe Yann Arthus Bertrand cherche à filmer un élevage de porcs en Bretagne. Son équipe a été chargée de contacter les groupements de producteurs. Les motifs du tournage ne sont pas clairement énoncés, cela dit.
Nous vous appelons à la plus grande vigilance afin d'éviter de tomber dans le piège d'un journaliste, peu enclin à présenter de manière objective le métier d'éleveur de porc en Bretagne.
Dans ce climat, que fait la justice ? Plein d'espoir, nous contactons le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. C'est auprès de lui que les salariés de Nutria ont déposé plainte au pénal, il y a déjà bien longtemps.
Je vais vous passer le bureau d'ordre et enregistre les plaintes. Hein.
Merci.
Bureau d'ordre, bonjour.
Bonjour monsieur, je vous appelle, je travaille pour Radio France.
Oui.
Je m'intéresse à une contamination qui a eu lieu dans une coopérative agricole.
Oui.
Qui s'appelle maintenant Nutria Triskalia.
Vous avez le nom de la personne qui est mise en cause ? À tout hasard, le nom de victime, vous avez des victimes ?
Alors, Laurent Guillou. Stéphane Rouxel, R-O-U-X-E-L.
Je pense que j'ai trouvé. Alors, le dernier événement que nous, on a, c'est... Il y a eu une enquête à Guingamp qui est revenue en date du 1er septembre 2014. Et ensuite, ça a été redonné au magistrat qui a ordonné l'enquête au 1er septembre 2014. Mais depuis, on n'a pas de suite.
Et ça veut dire quoi ?
Ben, c'est en attente de décision du magistrat qui gère ce dossier.
Parce
s'il,
que...
s'il va poursuivre, s'il va classer, s'il va donner à l'instruction, s'il va faire un réquisitoire pour l'instruction. Là, on n'a pas plus d'infos, là.
Là, il n'y a toujours pas de juge d'instruction qui est nommé ?
Non, non.
Et la plainte a quand même été déposée ?
22 juillet 2009.
Ça fait presque 6 ans.
Oui, je ne peux pas vous en dire plus. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais...
Et ça arrive souvent que ça soit en sommeil, comme ça ?
Ça peut arriver, oui. C'est vrai que là, c'est en sommeil depuis longtemps, mais on ne sait pas pourquoi.
Ces gens-là, quand on fait la synthèse de la chose, il y a des gens qui ont fait des conneries, qui ont mis des produits insecticides en surdosage, interdits. Je les ai respirés, j'ai développé une maladie des poumons, j'ai développé un syndrome qui s'appelle le MCS, et en même temps, j'ai développé le syndrome SFC, qui est le syndrome de fatigue chronique.
Vous êtes fatigué ?
Tout le temps, et j'essaie de me soigner. J'utilise à peu près l'équivalent de 70€ de médicaments tous les mois, c'est de ma poche, tout est de ma poche. Et j'ai essayé de me faire reconnaître en maladie professionnelle qu'on me refuse. Cette maladie-là, elle est connue aux États-Unis depuis 1952.
Est-ce que c'est la maladie des vétérans de la guerre du Vietnam qui ont été exposés à l'agent orange ?
C'est ce qu'on nous a dit, et j'ai appris, par un professeur qu'on a vu à Paris, qu'il y a des soldats dans le Golfe qui ont chopé le même syndrome que nous.
Je peux regarder les produits que vous utilisez ?
Allez-y.
Donc maintenant, vous utilisez pour les mains du savon de Marseille ? Du liquide vaisselle écologique, pur savon de Marseille.
Je fais que ça.
Vous avez un gros sac de médicaments ?
Oui, j'ai un gros sac. Ça va faire 2 ans que je suis en traitement. J'ai du Tanacan, ça c'est pour améliorer le flux sanguin pour le cerveau. Charbon actif.
Ça c'est contre les produits toxiques ?
Ça permet de nettoyer les intestins, ça. L'estomac, intestin, colon, tout ça. Du magnésium, parce que mon problème se règle avec tout ce qui est magnésium, vitamine. Ça, c'est un antihistaminique. Je prends tous les jours. L'oméga 3. Autrement, j'ai du bévitine. Béflavine. Bon, ça, c'est des cachetons autrement pour les maux de tête.
Paracétamol, doliprane.
Doliprane, voilà. C'est pas fond pour les maux de ventre, parce qu'il m'arrive parfois que j'ai des douleurs au ventre, je sais pas pourquoi, et ça permet de diminuer un peu les effets. Et autrement, ça c'est la fameuse... Ça c'est moi qui ai trouvé ça, et j'ai l'impression que ça me fait un peu de bien. C'est le pycnogénol. C'est une molécule qui est issue de l'écorce de pin de Charente-Maritime, des Landes et tout ça. Et ça permet de diminuer les effets du syndrome des fatigues chroniques. Et j'ai l'impression que ça va un peu mieux. Mais je pense que je suis obligé de prendre ça à vie. Là, j'en ai pour 70€ tous les mois de ma poche. Et ça, personne ne veut m'aider pour prendre en charge ce traitement-là.
La MSA, elle vous dit quoi, à l'heure actuelle ?
Oh, la MSA, ils ne disent rien du tout.
Donc la mutualité sociale agricole.
De Saint-Brieuc, bien sûr. Il y a un moment, ils ont dit que je voulais la mort de mon entreprise.
La MSA vous a dit ça?
Oui. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez, M. Guyader? Vous voulez que votre entreprise ferme?
Ce que vous disiez quoi, vous?
Ben moi, je me rebellais. Je dis, mais attendez, moi, j'ai plein de soucis de santé. Déjà, eux, ils savaient déjà depuis 2009 qu'il y avait un problème sanitaire. Ils n'ont rien fait pour que ça s'arrête. Mais si ces gens-là avaient fait leur travail comme il se doit, c'est pas constater, fermer les yeux et nous regarder crever. Moi, je serais en train de conduire un camion. Quand je conduisais un semi-remorque depuis l'âge de 18 ans et demi, là, à l'heure actuelle, aller à Saint-Brieuc avec ma voiture, ça peut être parfois pénible. Je suis même obligé d'aller prendre des axes secondaires parce que je n'avance pas sur la route, je ça va pas. Et je vis comme ça au quotidien depuis 2009. J'ai encore le chômage de Nutria jusqu'au mois de juillet. Après, j'aurai plus rien. J'aurai plus le RSA. À moi de me débrouiller pour trouver du travail. D'ailleurs, quand j'ai été licencié, l'expertise que j'avais eue à Rennes, on m'avait dit « Débrouillez-vous pour trouver du travail. » Moi, on me rend malade, on me fout dehors, débrouillez-vous. Je n'accepterai jamais. Surtout le comportement de ces gens-là. Ah non, 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 je ne peux pas accepter ça, c'est impossible. J'accepterai jamais.
Compléter ce reportage, Inès Leroux s'entretient avec Serge Lequeo. Serge Lequeo est syndicaliste à Sud Solidaire. C'est lui que les quatre salariés intoxiqués sont venus trouver pour lui demander de l'aide.
Alors, il y a un premier point qui est étonnant dans cette histoire, Serge Lequeo, c'est que les salariés de Nutria Triskalia se sont tournés vers un syndicat extérieur à leur entreprise, donc à savoir Sud PTT. Alors que leur entreprise, c'est la nutrition animale, ça n'a rien à voir avec les PTT.
Oui, ça n'a rien à voir, mais justement, c'est par défaut qu'ils sont venus nous voir, parce que malheureusement pour eux, disons, le syndicat majoritaire, ultra-majoritaire dans l'entreprise, donc qui est le syndicat CFDT, n'a pas voulu prendre en charge leur dossier, au prétexte que, étant donné les intoxications dont ils avaient été victimes, ça pouvait, si c'était rendu public, c'est-à-dire avec... plainte au pénal et plainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, évidemment, il y avait un risque de médiatisation de l'affaire. Et malheureusement, à l'époque, le syndicat CFDT a considéré qu'il n'était pas de l'intérêt ni de l'entreprise, ni des salariés, ni de l'industrie agroalimentaire bretonne que cette affaire sorte de l'entreprise. Au nom du sacro-saint défense de l'emploi, les syndicalistes en arrivent finalement à ne plus assumer leur réelle mission qui est de défendre les intérêts moraux et matériels des salariés. Et c'est pour ça que donc Laurent, Stéphane, Claude, enfin, ils sont venus me voir alors qu'ils étaient adhérents même au syndicat CFDT.
Ils étaient adhérents à la CFDT, ouais, chez Nutria Triskalia.
Oui, voilà, voilà. Donc c'est vrai que c'est bien triste. Et moi, quand ils sont venus me voir, je leur ai dit que ce serait compliqué parce que leur affaire était donc gravissime, mais que ça s'était passé pas dans n'importe quelle entreprise bretonne, ça s'était passé dans la plus grosse entreprise agroalimentaire de Bretagne, qui, de mon point de vue, est un véritable état dans l'état en Bretagne. Et que, en fin de compte, s'attaquer à Triskalia, vraiment, c'était le combat de David contre Goliath. Si ça s'était passé, les intoxications s'étaient passées chez un petit artisan, dans une toute petite entreprise, l'employeur aurait été traîné devant le tribunal, aurait été vilipendé, y compris dans la presse locale, quoi. Mais dès lors qu'on s'attaque à une puissante comme Triskalia, il y a une sorte d'immunité, en gros, c'est ça.
Alors pourquoi vous parlez d'État dans l'État ?
Ben parce que on a bien vu encore récemment avec le mouvement des Bonnets Rouges, en fin de compte, l'appareil d'État en Bretagne a extrêmement peur de la puissance politique qu'a le monde agroalimentaire de la Bretagne. Ils ont une puissance financière très importante et donc ils sont des grands pourvoyeurs de publicité pour les médias locaux. Ils ont des moyens de pression, en gros, sur les médias.
En supprimant des encarts publicitaires de leurs journaux.
Voilà, évidemment.
Les salariés n'ont pas la liberté de parole, ils peuvent perdre leur emploi parce qu'ils se sont exprimés sur leurs conditions de travail.
Ben voilà, ce qui se passe en Bretagne, si vous voulez, c'est que les salariés ont vraiment peur souvent de dénoncer les conditions assez lamentable de conditions de travail dans lesquelles ils travaillent, et puis aussi les scandales sanitaires liés à la production d'aliments pour bétail ou même l'alimentation humaine. Et c'est vrai que le patronat de l'agroalimentaire en Bretagne se comporte d'une manière extrêmement dure avec les salariés qui osent dénoncer ce qui se passe réellement dans les entreprises, quoi. Donc la plupart du temps, ça se termine par un licenciement. Ça a été d'ailleurs le cas pour Laurent Guyou, Stéphane Rouxel, Claude Le Guyader et Pascal Brigand, qui ont eu le courage de dénoncer ce qui se passait dans l'entreprise. Et ben, ils ont tous les quatre été licenciés.
Mais on dirait que cette ambiance, elle se généralise même aux personnes qui ne sont pas employées dans l'agroalimentaire. De se taire, une habitude de se taire, de ne pas parler, un peu de peur.
Oui, c'est vrai que c'est assez surprenant. Les gens ne veulent pas parler. D'ailleurs, je pense que vous avez dû le constater en essayant de faire votre reportage, donc d'interroger les acteurs du monde agroalimentaire en Bretagne. Il y a une sorte d'omerta qui existe et les gens ne veulent pas parler parce qu'ils savent les conséquences très négatives pour eux et leur entourage que ça peut avoir d'avoir le courage de s'exprimer, de dénoncer certains scandales. Ceux qui disent la vérité, finalement, doivent être exécutés, si on reprend la fameuse formule. Mais je pense que leur combat va porter ses fruits dans les mois et les années à venir. Et qu'il faut se féliciter que Laurent Guyou, Stéphane Rouxel, Claude Le Guyader et Pascal Brigand, ils aient eu ce courage-là. Finalement, ce combat-là a été gagné. Aujourd'hui, le fait que d'ailleurs Triskalia n'est pas jugé utile de faire appel de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, les condamnant pour faute inexcusable de l'employeur, montre bien qu'une première victoire a été gagnée, difficile, mais néanmoins les salariés ont gagné.
Le 1er avril prochain, la Cour d'appel du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes rendra sa décision concernant deux de ses anciens salariés de Nutréa Triskalia, que vous avez entendu dans ce reportage, Claude Le Guyader et Pascal Brigand. Le caractère professionnel de leur maladie n'est toujours pas reconnu. De plus, ils demandent l'annulation de leur licenciement. Bretagne, une histoire de grains pourris, c'était un reportage d'Inès Leroux, prise de son Yvan Turc, mixage Claire Levasseur. Interception a été réalisée cette semaine par Anne Lureau, assistée de Stéphane Combe, Juliette Acus et Christine Kern.